surtout que... oui, ben, je reprends par le jeu, justement, parce que c'est de ça qu'il va être question. De la question du jeu comme théorie du jeu, jeu de la théorie, et surtout comme pratique du jeu dans le champ théorique. La question qu'on pourrait se poser après ces exposés tout à fait remarquables, François, c'est la question de savoir s'il est possible d'avoir dans ce jeu-là des comparses. Ou est-ce que c'est une fugue solitaire, une fuite rimbaldienne, quelque chose qui vraiment s'écarte et prend définitivement les distances. Et ce que je vais raconter là, c'est le fait d'une équipée à deux, pratiquement trois d'ailleurs, dont deux sont ici. Moi et Hubert Tonca qui est là, qui écrit, qui prend des notes. Et cette chose-là nous concerne ce qui a été appelé à un moment la querelle de l'art contemporain. Bon, comment ça a pu se jouer cette affaire-là? Je vais essayer de raconter ça par tableau. Et pas du tout, donc, pour... Je laisserai l'écho des choses que j'ai entendues sur la pensée radicale se faire, parce qu'ils se font à tous les coins de rue là-dedans, dans cette affaire qui s'appelle donc la querelle de l'art contemporain, qui est une affaire qui a débarré en tant que querelle en 1996, pour d'ailleurs ne toujours pas être terminée, sauf que maintenant, évidemment, elle a été... Comme on pouvait s'en douter, elle est passée au registre de la publicité pour le fameux art contemporain. Donc ça, il fallait s'y attendre et personne n'en a jamais été dupe, ni lui ni moi. Donc je vais raconter une histoire où on a été effectivement comparse dans un jeu et d'une façon qui est très particulière parce que ce n'est pas un jeu, comme ça se fait chez les intellectuels où on essaye d'être absolument brillant et de dominer. Mais dans ce que disait François tout à l'heure, je crois qu'on a senti cette idée que le jeu avec le monde n'est pas destiné à s'assurer une autorité, de quelque manière qu'elle soit, une autorité sur le monde, une autorité sur ce qui écoute, ou une autorité dans la théorie. Il s'agit de défaire l'autorité aussi. C'est-à-dire que la finalité de ce jeu, c'est, comme le dit si bien Jean, dans une sorte d'aphorisme que personne n'arrivait à comprendre et qui est pourtant limpide, aucun joueur ne doit être plus grand que le jeu lui-même. Ce qui indique que le jeu est fait pour être joué, pas pour être maîtrisé, et pas pour rendre les autres dupes. Le complot de l'art, c'est le titre d'un de ces textes, mais tout à l'heure j'y reviendrai, ou en tout cas cette querelle de l'art contemporain, est une source de malentendus absolument colossale. Et en même temps, c'est l'endroit où je crois qu'on a eu un plaisir à jouer tous les deux pendant plus d'une année, presque deux ans, absolument sans limite. Donc je vais essayer de raconter comment le jeu devient quelque chose qui est sans limite à partir du moment où il est bourré de malentendus. C'est-à-dire donc il ne s'agit pas d'éclaircir, encore une fois il ne s'agit pas de prendre la maîtrise théorique des événements ou des choses, il s'agit au contraire de s'infiltrer là-dedans. Et avec ce qui a été annoncé par François tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette idée de la disparition de toute vérité là-dedans, eh bien, c'est le fait que la pensée peut parfaitement, c'est l'hypothèse que faisait Jean, c'est l'hypothèse que je soutenais aussi, en tout cas pour partager largement, on s'était rendu compte d'abord que c'était une banalité chez les scientifiques, que les organismes qu'ils observent se modifient à partir du moment où ils se sentent observés, ou en tout cas où ils réagissent à l'observation, et ils ne sont jamais celui qu'on croit. On savait ça depuis la réflexion entre guillemets post-marxiste, c'est-à-dire ce qu'on appelait la récupération, à savoir, et Debord par exemple a largement qualifié de tous les noms, à savoir donc l'intégration dans la chose critiquée de la pensée critique qui s'adresse à elle. Ça c'était une des leçons fondamentales, à savoir que la marchandise fonctionne aujourd'hui pas essentiellement par la critique de la marchandise, mais on le savait avant, on avait quand même bien vu que les critiques qui étaient adressées notamment au stalinisme par quelques-uns, sont ici aussi, elles étaient complètement reversées dans les armes redoutables que pouvaient employer, donc, y compris même donc, les organisations staliniennes de l'époque. Donc, on connaissait cette histoire-là, on connaissait parfaitement ça, et la question du jeu, c'était justement de sortir de l'analyse critique. Donc, il n'était pas question, évidemment, dans cette affaire, vous comprendrez tout de suite, de critiquer l'art contemporain, mais d'entrer dans son jeu et de démantibuler le jeu, c'est-à-dire de jouer d'une telle façon que ça le pousse aux limites, et surtout, c'est quand même pas tout à fait rien, que ça démasque d'une certaine façon le caractère jeu de dupe qui s'était installé là-dedans. Donc, revendication d'un jeu où personne ne doit être plus grand que le jeu, mais lorsqu'on a affaire à un jeu de dupe, il s'agit d'y entrer avec effraction et de commencer à comment dire, à y poser des questions qui permettent de voir s'écrouler tout l'édifice, sans avoir à le critiquer et sans avoir non plus à prononcer un jugement moral là-dessus, sous prétexte que le peuple serait dupe de la falsification ou de je ne sais quoi sur l'art. Non, juste de laisser se démontrer. Alors, pour certains qui sont ici et qui ne voient peut-être pas très bien de quoi il s'agit avec ce mot « art contemporain », je vais rapidement résumer les choses. Le concept est né il y a très peu de temps, une trentaine d'années, et il est déjà soumis à un révisionnisme historique absolument colossal. Je veux dire que c'est très intéressant, le mot « art contemporain » est en soi déjà quelque chose qui aurait mérité le fameux « jeu » dont je viens de parler, à savoir d'en foutre en l'air la vacuité et le mot qui n'a aucun sens autre que celui qui s'entende pour y ménager des affaires derrière, ou justement ce que Jean a appelé un délit d'initié, j'y reviendrai beaucoup. De quoi s'agit-il? Donc l'art contemporain, c'est tout simplement que dans la presse 68, il y a effectivement une multiplicité de pratiques artistiques, de croisements, mais surtout une revendication de démolir l'art, dont on sait quand même, on voit les usages, et en particulier les conservateurs, etc. Bon, bref, disons que l'art est une des cibles de l'agitation de la presse 68, et pas pour rien. Mais voilà aussi que des gens se disent, mais pourquoi l'art qui se fait ne doit-il pas entrer dans le musée? Ah, c'est une contradiction, parce que le musée, c'est la célébration des choses, c'est-à-dire c'est la valeur consacrée, j'insiste sur le mot valeur, c'est la valeur consacrée par les ans, par les jugements d'experts, et par la place que l'art peut occuper dans la civilisation. Donc voilà trois critères qui permettaient de dire, ceci est beau, point final, c'est au musée, c'est admirable, ça a une valeur. Admiration, dévotion, valeur, etc. De l'autre côté, donc, un art qui s'agite dans les rues, un peu partout, et pas seulement dans les rues, parfois dans les ateliers. Et puis, des gens qui se disent, mais il faut provoquer le musée, il faut faire entrer dans le musée l'art qui se fait en ce moment. L'art contemporain, le mot apparaît à peu près en 77, 75. On le trouve dans Art Press, qui vient de naître, on le trouve chez Daniel Templon, galeriste, on trouve pas mal de gens, et ben, ils essayent de dire une chose, c'est l'art qui est en train de se faire.
On disait art vivant.
On disait art vivant, voilà. Dans l'après 68 immédiat, c'est l'art vivant. Mais ça voulait tout simplement dire que les gens qui le faisaient étaient vivants, et que donc on opposait la mort qui sacralisait l'œuvre, on lui opposait le vivant qui supposait la non-valeur, en gros. Hein, et donc il y avait là un enjeu, un choc. Bon, bref. Alors, pour aller un peu plus vite, il se trouve qu'il y a un scandale qui éclate au musée de Toulon. En 1978 ou 79, quel musée est dirigé par une galeriste, une jeune galeriste à l'époque qui s'appelle Marie-Claude Beau, qui d'ailleurs à elle seule résume peut-être la naissance de l'art contemporain et peut-être même la carrière de l'art contemporain par la suite, y compris les malentendus qu'on va y trouver. Marie-Claude Beau donc expose au musée de Toulon, qui est un musée assez riche en pièces anciennes, en collections. Elle expose donc des artistes de la génération qui est la sienne, de la nouvelle génération, et ça fait un scandale, c'est un scandale dans la presse, mais qu'est-ce qu'il vient de foutre des toiles à matelas à côté de tableaux de la Renaissance ou de l'époque moderne, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une honte, c'est une provocation. Et on crie à la provocation. Elle est donc suspendue avec traitement, enfin bon, bref, les choses se compliquent, elle a quand même le temps de mettre en place une collection, et elle utilise ce concept. Il faut opposer, pas opposer, mais il faut absolument que les musées qui sont les lieux de l'art, où on peut voir l'art, je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas les galeries qu'on connaît aujourd'hui, l'art contemporain n'est pas encore devenu une galerie marchande généralisée, donc il y en a peu d'endroits où voir l'art. Il y a la rue, et on ne se prive pas d'ailleurs d'en montrer dans la rue, et puis il y a effectivement des endroits un peu alternatifs, mais les musées restent la citadelle à conquérir. Donc elle dit, l'art contemporain doit pouvoir être montré dans les musées, parce qu'il ne faut pas attendre forcément qu'il ait reçu la valeur des années, la valeur de consécration, etc., etc., qui est réactionnaire en soi. Et donc, bon, pourquoi pas réactionnaire. Bref, la chose fait quand même assez... Mais le mot art contemporain réalise un double résultat politique et économique, si on peut dire. D'abord, des achats vont pouvoir commencer, et effectivement, le musée de Toulon a une pratique d'achat d'art de l'époque, d'ailleurs, qui actuellement est une collection assez importante, mais également donc politique, parce que ça veut dire qu'on a brisé dans le musée donc la fameuse réserve des ans. Le musée n'est plus le lieu de la réserve où les années s'accumulent et la valeur avec. Le problème de la valeur de l'art contemporain est donc posé ouvertement. Il ne vaut rien, mais il est de l'art comme l'autre. Donc il vaut tout. Et quelque chose aussi, Marie-Claude Beau, donc pour en finir avec elle, si on peut dire, qui est une personne tout à fait sympathique, que je connais bien, mais donc est suspendue avec traitement, en fait, elle quitte la fonction publique et elle décide effectivement de faire quelque chose d'important que vous connaissez, c'est la création de la Fondation Cartier pour l'art contemporain. C'est la première fois qu'officiellement le mot art contemporain est incrusté dans une désignation d'institution. Fondation Cartier pour l'art contemporain, 1984, elle travaille longtemps à cela. Et ensuite, ben, c'est elle d'ailleurs qui, avec son nouvelle, bon, réfléchira à l'actuelle. C'était à Julien Josas, donc la première, la seconde est à Paris, vous la connaissez, vous l'embrassez, etc., avec l'immeuble de Jean Nouvel. Donc ça pour dire qu'on voit dans cet étalement-là, on est en 1984, on sort des années 68, mais les collectionneurs commencent à s'intéresser à l'art contemporain, et on va voir comment. Est-ce qu'ils s'intéressent à l'art? Question baudrillardienne, attention, c'est pas parce que quelqu'un achète de l'art que pour autant il s'intéresse à l'art, parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'art, ce à quoi il s'intéresse, et que veut dire s'intéresser. Et surtout quand il s'y met des choses assez troubles, comme l'argent, la spéculation, etc. Ce qu'on sait, c'est que les acheteurs d'art, qui ne sont pas toujours des gauchistes, la plupart du temps pas du tout, commencent à s'intéresser à l'art contemporain comme signe d'une agitation qui ne les menace plus. Car cette agitation, sous les années giscardiennes, et surtout ponaturskiennes, ne les menace plus. Disons qu'un régime policier a relativement installé l'ordre là où il y avait du désordre, et où l'art d'ailleurs conduisait, participait à la conduite de ce désordre. Et voilà qu'à ce moment-là, donc, il y a suffisamment de sérénité pour qu'on en achète les signes du désordre. Bobcal, Anine, tu connais, bien d'autres, etc., commencent donc des collections à un temps relativement assuré. Mais vous avez trouvé ça pour les plus jeunes d'entre vous. Si vous êtes baladé à Beaubourg l'année dernière, enfin, sans Beaubourg, vous aviez une phrase géniale de Georges Pompidou, l'art doit déranger, interpeller, etc., etc. Sauf qu'à l'époque où il était, lui, président de la République, chaque fois qu'on dérangeait, etc., on passait lui au poste. Donc c'est quand même intéressant de voir après ces espèces de règlements moraux, enfin, ces indications morales sur ce que doit faire l'art, qui sont quand même comiques, enfin, c'est un peu comique. Alors, ce que je veux dire, nous en arrivons à cette affaire-là. Voilà donc pour le tableau. Nous sommes en 86, à peu près, quand l'art contemporain commence, avec l'aide de Jacques Lang et tout ça, mais qu'importe, quelque chose est en train de s'installer qui fait que la contemporanéité prend de la valeur. Ça, de la valeur. Il y a une valeur contemporaine, on appelle ça l'époque. Donc, jusque-là, l'art, on peut le dire globalement, même avec je crois assez simplement, jusque-là, l'art essayait de faire son époque, ou en tout cas essayait de construire son époque, c'est-à-dire faire porter à l'époque un destin qui aurait été à la fois révolutionnaire, poétique, artistique ou autre, où la vie devait être un art, et où l'art devait disparaître en tant qu'activité séparée. Mais voilà que, tout à coup, c'est l'époque qui fait l'art. C'est-à-dire que la valeur de l'art, ce n'est pas le fait qu'il fait son époque, ça n'est fini pour l'eschatologie révolutionnaire, l'accompagnement du délabrement du capitalisme et l'éveil d'une société nouvelle. Non, c'est la perpétuation de ce monde-là qui donne la valeur à l'art qui se fait. Et on appelle ça donc l'art contemporain. C'est le premier passage qu'on n'aperçoit pas à l'époque, qui n'est pas proclamé, mais où on s'aperçoit que l'époque, c'est l'artiste. C'est là que, donc, quelques années après, nous allons entrer en scène. Si on peut dire, c'est ça, une scène, la scène de l'art. Alors, évidemment, il y a eu déjà des gens qui avaient protesté. Jean Mondré, par exemple, à l'époque, l'auteur du Salon indépendant, avait déjà écrit, beaucoup de gens avaient écrit que l'art contemporain était visiblement quelque chose qui... une supercherie, je veux dire, qui correspondait aux marchands, qui correspondait à un vocabulaire de marchands et d'artistes, etc. Des premiers artistes contemporains à avoir être apparus sur la scène pour une référence, c'est essentiellement Daniel Buren, bien avant les colonnes du Louvre. Mais sous la forme de personnalité, c'est la personnalité qui tout à coup rassemblait un peu ce que pouvait être cet art, donc récalcitrant, rebelle, etc., etc., qui tout à coup rentrait en notoriété, surtout rentrait dans le marché. Et donc, commencer à avoir une valeur marchande qui, elle, était sans doute plus intéressante que la seule reconnaissance mondaine. Parce que les valeurs commençaient à être fortes. Donc, une spéculation existe. Nous en sommes là tantôt tableau. Dans l'antériorité, il y a, pour ce qui concerne... Alors, bon, que vient faire, donc, Jean Baudrillard dans une affaire pareille. Ce n'était pas l'affaire de Jean que de s'occuper de l'art en tant que tel. Il était comme nous voulions tous l'être, sensible effectivement à des œuvres et pas sensible à d'autres, etc. Mais bon, avec une particularité qui était d'être récalcitrant à cette idée des catégories. C'est-à-dire que l'art, on doit être sensible à l'art. Non, on est sensible à des œuvres. Et si on est sensible à des œuvres, on peut passer beaucoup de sa vie à admirer. C'était son cas, par exemple, pour Edward Hopper, qui n'est pas un artiste, qui n'était pas à l'époque un artiste majeur, un artiste américain, de néo-réalisme américain, et pour qui, et, bon, c'était un peu mon cas aussi, donc on partageait ça de très près, je dirais le jeu, le bonheur qu'il y avait à regarder la peinture d'Edward Hopper dans les années 80, bon, qui n'était pas très connu, maintenant c'est beaucoup plus. Mais bon, il y avait des sensibilités à des œuvres, et puis des répulsions pour d'autres œuvres, et point final. La question ne se posait pas en termes de aimer l'art avec tout ce qu'il comporte, et, ou ne pas aimer l'art avec tout ce qu'il comporte. Premier malentendu. Donc, le premier malentendu, c'est que quand vous attaquez une condition qui est faite à l'art, vous ne attaquez pas forcément les artistes ni les œuvres. Vous attaquez rien du tout. Vous commencez à jouer avec l'évidente mystification qu'il y a derrière une situation. Évidemment, de l'autre côté, ça part répondu comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la querelle de l'art? Bon, je résume, donc, vous trouvez, je ferai référence, là j'ai les deux ouvrages donc, qui ont été publiés chez, sans c'est ton cas, Hubert, ici, donc il les connaît. Il y en a un troisième, le Mac de Marseille, je ne l'ai pas, et je crois qu'il est un peu disponible, enfin, on verra ça, oui, en tout cas, le Mac de Marseille, c'est donc Jean-Claude Pionnier qu'on sort, dans lequel il y a un texte de Jean qui n'a pas été republié ailleurs, d'ailleurs, qui s'appelle Macintosh, et dont on reparlera parce qu'il est extrêmement drôle, qui est vraiment un type de jeu de la théorie, ou en tout cas de théorie comme jeu. J'en reviens donc à l'art ému. Voilà la formule. Voilà la formule qui est retenue donc à partir de 96, et à partir de ce texte, donc, qui est pourtant précédé par d'autres prises de position de Jean ou de moi, d'ailleurs, et qui est d'autres publications antérieures. Mais c'est à ce moment-là que ça explose, en 96. Ça explose, on peut dire, avec deux événements où Jean est mêlé. Il y en a un, c'est moi qui l'ai un petit peu lancé, et avec lui. Et donc, ça a été quelque chose de relativement catastrophique, mais très très drôle, et dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en grande ligne, vous pourrez trouver le petit livre que Hubert a édité là-dessus. Et la deuxième chose, c'est la trajectoire de Jean lui-même, seul, avec l'écriture, par rapport à ce monde enragé de l'art contemporain, qui, alors que Jean, encore une fois, j'ai donné ce tableau tout à l'heure pour rappeler que pratiquement de 1980, donc, l'apparition un peu installée du thème, à 96, il y a une quinzaine d'années, pendant lesquelles, ben, tranquillement, l'art contemporain est devenu une marque de lessive, pour dire les choses comme ça. Et une lessive qui se vend, avec toutes les lessives derrière, les concurrences.
C'est pas de lire avec Warhol.
Ben oui, c'est le fameux blanchiment, etc. Enfin, donc, bon, je vais lire à peu près ce qui a été, comment dire, l'exposé de Jean assez court, qui est devenu vraiment le scandale. Alors, pour mesurer à quel point c'est un scandale, je donnerai après les présupposés qui étaient ceux de Jean, et ensuite je donnerai aussi peut-être un peu plus d'apparition de ce dont on a parlé tout à l'heure, comment quatre ou cinq thèmes de la pensée de Jean se retrouvent vraiment mobilisés, mais en pratique, c'est-à-dire sous la forme de textes qui apparaissent en conflit, qui sont à chaud. Ce n'est pas uniquement des textes réflexifs, ce sont des textes faits pour, non pas répondre, mais à faire avancer le jeu, jusqu'à ce qu'il aille, jusqu'à son apogée. Alors, le texte est le suivant. Il est donc dans Le complot de l'art. Le complot de l'art, c'est un texte que Jean a publié dans Rebond, dans Libération, c'était en mai 96, et ça faisait suite au texte que j'avais publié dans le Rebond précédent, et auquel il était intimement, lui, mêlé, et qui s'appelait Le Mac mis à nu. Donc, je vous parlerai tout à l'heure du Mac mis à nu, où il a participé avec moi, d'une certaine manière, dans le jeu théorique, et ensuite ce texte-là, qui est de lui, mais qui commence à formaliser des choses qu'il avait commencé d'ailleurs avec Françoise Gaillard, qui est ici en 1990, sous la forme d'un entretien pour Canal, je crois. C'est bien ça? Oui, merci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà ce que écrit Jean dans Le complot de l'art. Dans ces innombrables installations, performances, il n'y a qu'un jeu de compromis avec l'état des choses, en même temps qu'avec toutes les formes passées de l'histoire de l'art. Un aveu d'inoriginalité, de banalité et de nullité, érigé en valeur, voire en jouissance esthétique perverse. Bien sûr, toute cette médiocrité prétend se sublimer en passant au niveau second et ironique de l'art. Mais c'est tout aussi nul et insignifiant au niveau second qu'au premier. Le passage au niveau esthétique ne sauve rien, bien au contraire. C'est une médiocrité à la puissance 2. Ça prétend être nul, je suis nul, et c'est vraiment nul. Toute la duplicité de l'art contemporain est là. Revendiquer la nullité, l'insignifiance, le non-sens, viser la nullité alors qu'on est déjà nul. Viser le non-sens alors qu'on est déjà insignifiant, prétendre à la superficialité en des termes superficiels. Or, la nullité est une qualité secrète qui ne saurait être revendiquée par n'importe qui. L'insignifiance, la vraie, le défi victorieux au sens, le dénuement du sens, l'art de la disparition du sens, est une qualité exceptionnelle de quelques œuvres rares et qui n'y prétendent jamais. Je crois que vous avez à peu près vu déjà l'ambiance. Et surtout, maintenant, vous allez comprendre l'énorme malentendu devant. Je crois, c'est à peu près dit là-dedans, dans un autre extrait, je vous le dirai, c'est que ce monde de l'art contemporain, qui est en train de se mettre en place, qui est un monde d'art facile, rapide, etc., etc., est évidemment ignorant par-dessus le marché, ce qu'il n'écrit pas là, mais il l'écrit dans un autre texte. Une ignorance radicale qui fait qu'il est incapable de comprendre un texte pareil. Et surtout, il est incapable de saisir ce qui, dans ce texte, est de l'ordre des règles de l'art en matière d'une pensée. Ce sont les règles de l'art. C'est-à-dire, l'art prétend éblouir par son système avant-gardiste, par ses prétentions d'expliciter le monde, etc. Il n'éblouit rien du tout. Il est simplement replié sur ses propres décombres. Il joue avec ses décombres et il n'y a rien d'admirable là-dedans. C'est ce qui est à peu près dit là. Alors, évidemment, derrière, il y a toute la pensée de Jean sur le système des objets. C'est la première chose. Il y a, donc, à partir de l'objet, la disparition du sujet. Il y a la question de la simulation. Mais il y a, et je vais y revenir parce que Françoise en a parlé tout à l'heure, deux choses qui ont généré un malentendu absolu. La première, c'est la question de la fin, c'est-à-dire de la téléologie. Est-ce que Baudrillard joue à l'apocalypse? Est-ce que c'est un penseur d'apocalypse? Est-ce que c'est son idée, c'est un penchant morbide vers tout ce qui se détruit et qui meurt, etc. Et évidemment, la question de la fin de l'art, là, elle était un malentendu redoublé, parce que c'est l'art contemporain était à l'époque, et il est toujours un tout petit peu, mais maintenant il s'essouffle là-dessus, mais à l'époque, il revendiquait hautement l'art de la fin de l'art. C'est-à-dire que dans les années 70-80, l'art qui se fait, c'est la fin de l'art. Voilà, c'est le récit artistique de la fin de l'art. Œuvre après œuvre. Alors évidemment, c'est un récit qui n'en finit plus. Et évidemment, là-dessus, ça continue. Alors on voit une fin de l'art qui devient l'œuvre d'art par excellence, ou l'inverse. Un art qui, dont la fin est... Alors évidemment, Jean était extrêmement, a une pensée extrêmement aiguisée sur ces questions de la fin. Et elle se traduit, je crois, par quelque chose que vous retrouverez tout à l'heure dans la question du jeu théorique. C'est que, normalement, chaque fois qu'on annonce la fin de l'histoire, du social, de l'art, ce que vous voudrez, il y a des gens qui disent non, c'est pas possible, et ils s'inclinent plutôt dans la nostalgie, à savoir la fin est ce qui va nous être retiré, un monde qui va nous être retiré, il faut donc résister, etc. C'est la première façon de réagir à la fin. Deuxième façon de réagir à la fin, tout ça c'est un fantasme intellectuel, la fin n'a jamais existé, c'est récurrent depuis les premiers écrits, même depuis Homère, on voit toujours apparaître la fin d'une époque, de quelque chose, tout ça fait partie du fantasme humain. Il n'y a pas de fin, rien du tout, rien ne finira jamais, tout est toujours pareil, etc. Troisième position, donc, ceux qui, évidemment, comme l'art contemporain, et c'est une figure nouvelle, en tirent un bonheur excessif, une rentabilité incroyable, et finalement, un langage qui n'en finit plus, le langage sur la fin. Jean, lui, se place tout à fait ailleurs. Je crois qu'on peut dire assez rapidement, dans un côtoiement de Pascal, Nietzsche et Luther, pour commencer, sur la question de la fin. Luther, si vous voulez, j'en parlerai, mais dans la discussion. Pourquoi la proximité de Jean est, par rapport à Luther et Nietzsche. Mais aussi Alfred Jarry, Elias Canetti, Guido Cervanetti, Jorge Luis Borges, Macedonio Fernandez, qui sont soit des écrivains, soit des penseurs, soit des théologiens. Qu'est-ce que c'est que cette situation de la fin? Eh bien, c'est que la fin, elle fait partie du destin, et non pas d'un déterminisme. Ça, c'est la rupture profonde de Jean avec le marxisme, et y compris avec la théorie comment dire, prétention subversive, marxiste ou post-marxiste, c'est la question de la détermination. On n'a pas à accoucher l'histoire qui de toute façon promettrait par ses propres composantes et ses propres tensions promettrait un achèvement, et donc il s'agirait là de l'aider à accoucher. Et on n'a pas non plus à précipiter, à inventer, comment dire, devant les annonces de la fin, donc on n'a pas à croire ça, fondamentalement. L'annonce de la fin est prise dans la critique, elle est prise dans le discours critique, mais si on sort du discours critique, si on se place dans le discours de la destinée, il n'y a pas à critiquer les choses sur la destinée. Le sphinx, enfin le singe exactement, accomplit la destinée de Dieu. Elle n'est pas là, elle n'est pas là pour savoir s'il faut critiquer l'existence de la singe, elle est là. Et voilà que le monde, tout à coup, antique, un monde ancien aussi, d'une certaine façon, mais vitaliste, voilà que ce monde-là, qui est un peu le monde de Jean, c'est le monde qui consiste non pas à applaudir la fin en s'en réjouissant, en tirer bénéfice ou à la contrarier, mais à la prendre en compte comme une donnée, comme on prend en compte le fait qu'il pleut. Et s'il pleut, on ne peut pas protester, critiquer la pluie, il pleut, on s'amuse de cette pluie, on en tire le moyen de quelque chose, éventuellement. Mais peut-être, c'est le jeu de Jean, et c'est là que l'anticipation de la fin consiste à se placer au-delà de la fin, et avec Nietzsche, Canetti et d'autres, se dire que quand les signes de la fin apparaissent, c'est qu'elle a déjà eu lieu depuis bien longtemps. Car, de toute façon, les signes n'apparaissent toujours pour enseigner la conscience que bien plus tard. Alors, ça, on trouve ça aussi chez Michel Foucault, mais sous une autre manière. Mais c'est une chose essentielle. Si on perçoit les signes de quelque chose qui finit, ben c'est que c'est fini. Donc, toute la question après, ce n'est pas de jouer contre le destin. On ne va pas essayer de faire un employé de chez Darty. Vous voyez, je veux dire, il a un destin, c'est un destin, il faut qu'il aille jusqu'au bout, ce destin. La question de savoir comment il va le vivre pleinement, et non pas, on pourrait dire, modifier ou, altéré par la critique. On peut dire à ce moment-là que la théorie critique a une fonction d'altération, de destruction de la beauté franche du destin. Et parce qu'elle le recule, mais il n'y échappe pas, on ne peut pas y échapper. Alors, évidemment, ça paraît scandaleux. Comment jouer avec la fin de l'art en disant, ben oui, jouons avec la fin de l'art, puisque l'art contemporain dit que l'art est fini, ben oui, il est fini, plus belle lurette, passons à autre chose. Mais alors pourquoi est-ce qu'il s'entête à créer un art de la fin de l'art? Voilà la supercherie. En gros, vous comprendrez que le caractère, si singulier d'une telle théorie sur la fin, sur la valeur, etc., mélangée à des événements, c'est plus comme confronté avec des lecteurs qui lisent et qui disent « Ah, c'est intéressant, je vais reprendre la page trois fois ». Là, on est en plein dans l'action et évidemment, les plus grosses bêtises peuvent sortir dans les journaux. Je me rappelle de l'actuel directeur du Musée d'art moderne de Paris, donc Bernard Bissen, il a été nommé il y a une semaine, c'est quand même lui qui a été en face de nous pendant un temps, nous avons quand même traité de fasciste, ce qui est pas mal, Jean Le Boyard et moi, sous prétexte. Et d'ailleurs, c'était Arriva Hubert qui, lui, et surtout à Bordeaux, accueilli par le salut nazi parce qu'il avait publié Baudrillard et moi sur la question de l'art.
Oui.
On en était là quand même, il faut bien dire aux gens, hein. il faut qu'ils comprennent que l'art contemporain, ça en est là. Nous, nazis, vous voyez un petit peu le nazi que vous avez en face, et cet autre-là qui est là, et le troisième, quoi. Ça, c'est vraiment fou. Mais c'était ça. Alors, pourquoi une telle chose? Parce que c'est vrai qu'il y a une grande facilité intellectuelle à se jeter dans l'art contemporain, ce qui est plus simple que de lire Baudrillard et de s'amuser avec cette théorie. Là, on s'amusait avec la nullité, avec l'objectif, enfin, bon, bref, ce que vous connaissez sans doute. Donc évidemment, ils se sont fâchés de voir que quelques-uns venaient hausser le ton en disant « Allez, on va monter là. » Alors, je voudrais dire que je viens de parler de la question de la fin chez Baudrillard. Maintenant, je voudrais dire comment la théorie entre en jeu et sous forme de jeu. Entre en jeu, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de critiquer, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de position morale. Il n'y a pas de position morale parce qu'il n'y a pas de vérité non plus. C'est tout ça aussi la question. Il n'y a pas de vérité de l'art. Il y a eu de l'art. Il y a eu des œuvres. Mais il n'y a pas une vérité profonde de l'art au nom de laquelle il faudrait défendre ceci ou attaquer cela. Il y a, il le dira lui d'une manière, je crois, assez claire, il y a un constat anthropologique. L'art contemporain mérite un constat anthropologique dont j'ai vu tout à l'heure le tableau qu'en faisait Jean. Alors, à cela, à cette disparition de la vérité, je crois qu'on pourrait dire, ou en tout cas cette propulsion vers le jeu, il y a aussi en arrière-fond une phrase de Hölderlin qui résume beaucoup de choses chez Jean, qui était quelqu'un extrêmement admiratif d'Hölderlin, dont il a fait une traduction d'ailleurs, vous pouvez lire, je crois, ouvrage. Bon, mais je prendrai tout à l'heure. Mais une traduction d'Hölderlin et aussi une très très grande admiration pour ce poète. Que dit Hölderlin? Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Vous voyez qu'on est ailleurs que dans la dialectique, on est dans une pensée presque hyperbolique qui ne dit pas, au fond, attention, ça veut dire simplement qu'il y a une asymptote, et comme dans tous les destins, il y a une asymptote, et à un moment, il faut bien quand même franchir le seuil. Au-delà de ce seuil, on va retrouver quelque chose, mais qu'on ne peut pas présumer. Donc ce n'est pas la suite de ce qu'on espère, ce qu'on veut, etc., etc. Non. Il y a un mystère qui fait que le danger est la fin n'est jamais la fin en soi, elle est la fin de ce qui doit finir, qui obéit à un programme. Et, d'une certaine façon, je vais dire simplement la quatrième qualité de la chose, c'est la question de la fin du sujet, la fin de l'objet. Au départ, chez Jean, il y a une espèce de signalétique de l'objet, qui doit à la fois à Barthes, mais aussi à son rapport critique au marxisme, où il commence à regarder l'objet avec une vision plus anthropologique, celle du dialogue entre les objets, celle qui faisait dire à Lévi-Strauss, les mythes se parlent entre eux, là c'est des objets qui entretiennent entre eux des formes de relations qui subjuguent ceux qui les fabriquent, qui nous subjuguent, nous, qui prétendons les utiliser. Donc il y a une autre chose dans l'objet qui n'est pas que son usage, qui n'est pas que sa valeur, qui n'est pas que son échange, qui est son existence propre sur laquelle nous ne savons rien, mais nous pouvons présumer, et c'est ça le jeu théorique, que peut-être c'est les objets qui mènent la danse. De là, Jean passera dans les années 80 à cette question de la simulation, c'est-à-dire de l'opérateur de simulation étant finalement le fait que la réalité de l'objet ou de toute chose dans ce monde a disparu. Ce qui ne veut pas dire que le micro n'est plus là, ce n'est pas la question, mais ça veut dire que le rapport que nous entretenons au micro à travers le concept de réalité a été évacué et que cette chose-là n'a plus lieu d'être. La question ne se pose pas en termes de qu'est-ce que cela est. Elle ne peut plus se poser dans ces termes. Donc ça veut dire que le simulacre, c'est aussi bien le signe de la chose qui n'a pas de référent. Ce micro est tout à fait un simulacre de micro, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer avant du temps de la représentation, on va dire ceci vaut pour un micro, visuellement, ou bien du temps de l'objet, ceci est vraiment un micro, il a une valeur d'usage qui le qualifie, c'est-à-dire il sert à amplifier la voix, etc. Dans le régime de la simulation, non, ceci, on peut s'en passer parfaitement, mais il est là parce qu'il s'enchaîne avec d'autres simulacres et il n'est pas forcément utile. D'ailleurs, il n'a aucune forme d'utilité, il n'a aucune valeur. Il est là parce qu'il prolifère, parce que nous sommes dans un système proliférant. Et dans ce système proliférant, on ne contrôle pas non plus la fabrication. C'est ce qu'il appellera par ailleurs l'ironie objective, mais ça c'est un autre débat. C'est-à-dire que dans cette espèce de fabrication automate des choses, les choses prennent parfois des allures cocasses, grotesques. Le grotesque est à l'intérieur de la production du monde, et il n'est plus dans le regard qu'on porte sur le monde. C'est ce qu'on a essayé de faire donc avec cette affaire de complot de l'art. Alors, je vois que l'heure tourne et que vous êtes en train de m'écrire que l'heure tourne. C'est bien ça, oui. Et on me dit qu'elle tourne de telle façon qu'il n'a pas plus 5 minutes. Ce dont j'aurais pu douter, c'est pas vrai. Bon. Donc, il n'y aura vraiment pas du tout de choses sur cette question du MAC de Marseille. Je vous en dis en quelques mots comme ça. C'est une affaire assez étrange, mais ça va durer 2 phrases. Il se trouve que symptomatiquement dans l'état de l'art contemporain en 1996, donc, c'était en février 1996, donc, pendant la même année du complot de l'art et le déchaînement de la querelle, à Marseille, donc un jeune conservateur voulant faire le malin, c'est-à-dire qu'il fait l'artiste d'une certaine façon, et on sent déjà que l'artiste c'est le musée, on sent déjà que l'artiste n'est qu'un prête-nom. J'avais ajouté à cette époque-là, l'artiste n'est plus qu'un ready-made, c'est-à-dire qu'on prend un type qui a une vague de personnalité, et d'ailleurs on s'efforce On lui dit, mais ayez une personnalité un peu, parce qu'on va vous afficher. Mais c'est pas les œuvres, on n'en a rien à faire, ça, c'est pas le problème. L'œuvre, c'est nous. Nous, on fait quoi? On fait les juxtapositions, on fait les confrontations, on fait le transport des objets, etc. Les concepts, mais vous, s'il vous plaît, ressemblez à un artiste et ça vous suffira largement. C'est ce qui se fait avec un jeune garçon qui vient de terminer l'école des beaux-arts, c'est-à-dire ce qu'on sait. Et bon, ils ont une idée avec, qui est montée entre Blisten, donc celui dont je viens de parler, là, qui ensuite s'est excusé auprès des gens et de moi d'ailleurs pour dire qu'on avait totalement raison, mais il continue. Hein. Il a raconté il y a 3 jours sur France Info que Jeff Koons, c'était absolument l'égal de Michel-Ange. Je me dis, ce type est indétournable, il n'a toujours pas compris qu'on en est vraiment plus là à comparer, à chercher de la valeur avec que Jeff Koons, ça fait rire, et que bon, les Michel de McCarthy, la question est nulle de d'essayer de comparer ça à Michel-Ange, à Giotto, c'est stupide, ça fait un, c'est même infantile.
Il est le commissaire de l'exposition.
Oui, c'est totalement enfantin, vous voyez, il y a un côté pathétique de voir tant de bêtises à l'œuvre, bien sûr, à l'œuvre, c'est tout à fait. Mais bon, enfin, c'est pas grave, il est gentil quand même, mais il croit ce qu'il fait, c'est pas mal. Au moins, il croit quelque chose. Donc, dans cette perspective-là, ils ont l'idée de faire une pièce qui s'appelle « Tout ce que je vous ai volé ». Alors, l'artiste, donc, s'en va voler un caleçon par-ci, une plante verte par-là, un petit...
Il avait volé, ça existe.
Et il a volé, malheureusement, parce qu'il était idiot. Et on lui avait dit qu'il fallait voler juste pour le signe, mais comme il n'est pas encore au courant de ce que c'est que voler... uniquement pour le signe, il va voler un petit récepteur de télévision, ce genre, il ne vaut rien. Non, il fait partie d'une pièce d'un autre plasticien. Bon, ça tombe mal. Mais j'ajoute que ce musée, où va être présentée la pièce « Tout ce que je vous ai volé », c'est son titre, et qui va être donc constitué de toutes les pièces, se trouve à côté des Beaumettes, donc la prison de Marseille, tout le monde connaît le nom, où là, généralement, on va pour musée, on reste dans la prison, qui elle-même est un musée d'ailleurs, mais un musée de voleurs. Et il faut rajouter aussi que ce musée, dit musée d'art contemporain de Marseille, avec un jeu de mots flagrant, le MAC, vous imaginez à Marseille, après tout le reste, on a la réputation de cette ville, mais enfin bon, le jeu de mots est toujours là, il est inventé par Blisten, encore une fois, le même, mais ce type est génial. Mais de toute façon, il faut dire que la personne privée qui a légué les locaux de ce musée et la collection des nouveaux réalistes niçois qui s'y trouve, il comporte un commissariat de police. Aïe, aïe. Il y a un commissariat de police qui fait partie du musée. Oui, quand il y a donc un legs, une donation du musée auprès de la ville de Marseille, et donc, mais à condition que vous gardiez le commissariat de police. Alors, il y a un musée d'art contemporain avec un commissariat intégré, et là-dedans, on crée tout ce que je vous ai volé. Tout est bon, mais il y a mieux encore. Au moment où est présentée la pièce « Tout ce que je vous ai volé » qui est dans le hall, il y a une pièce en qui est faite par un autre plasticien, mais alors c'est un... je crois que c'est une sorte de lapsus colossal qui est en train d'envahir le musée. Elle représente des figurines de grandeur nature de policiers. Des policiers de grandeur nature avec matraque, tout ce que vous voudrez, uniforme, casquette et tout ça, et dans la pièce juste à côté. Donc il y a « Tout ce que je vous ai volé », une quarantaine de policiers en uniforme en cire, d'un autre côté, le commissariat juste derrière les policiers en cire, et un plasticien qui vient pour récupérer le moniteur qu'on lui a volé. Et voilà que le gardien lui dit cette phrase géniale, « Ah non, cette pièce-là, elle appartient au musée. » Il dit « Non, elle m'a été volée, c'est écrit. » Vous ne prenez pas ça. » Et il se bat. Alors, le plasticien en question m'appelle et me raconte ça. Évidemment, je mets mal aux côtes de rire, tellement je vois tout de suite tout le chose. Et nous y allons à deux avec un ami, bardé de micros, de caméras, etc. Je me souviens que je chante à ce moment-là les Roses de Picardie pour compliquer un peu les choses, et je demande s'il y a une assurance pour cette pièce qui s'appelle « Tout ce que je vous ai volé ». On me dit « Vous êtes un provocateur, je dis, comment ça, mais qui provoque qui, comment ça se passe ici ?» On dit « Ah non, cette pièce, c'est une pièce du musée. » Quelqu'un arrive, m'explique que Marcel Duchamp, etc., il ne connaît pas du tout, mais par contre, il est spécialiste de cinéma. Je dis, vous êtes responsable du musée, vous ne connaissez pas Marcel Duchamp, et vous accusez des pièces comme ça. Tout tourne à la folie. Et voilà que j'appelle ce plasticien, il vient pour récupérer à nouveau son moniteur, et ça recommence. Non, vous ne récupérez pas. Et je lui dis, mais appelez donc la police pour le récupérer. Il est dans le musée. Ce qu'il fait. Donc la police vient, et lorsqu'elle vient, vous allez voir ça, c'est une femme, très très, mais vraiment très 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 élégante, avec des jeans, tout ça, comme dans les films, la commissaire. Nous, on est toujours à côté, cet ami cinéaste et moi, et je chante toujours les Roses de Picardie, au moment où donc, la police déballe là-dedans et se trouve devant les effigies du policier d'un côté, l'œuvre, tout ce que je vous ai volé, et dit qu'est-ce qui se passe ici ? Prend le petit papier où il est écrit que c'est vraiment volé. Et la police dit quoi ? C'est vraiment volé ? Oui, le musée ne ment pas, il y a des œuvres de qualité qui sont allées certifiées que c'est volé. Elle me dit, moi, qu'est-ce que vous faites là ? Je dis, moi, je me réjouis seulement. Par plus, je dis, ça me plaît beaucoup. Elle me dit, embarquez tout ça, je sens bien sa conviction. Et j'ai ce malheureux, je dis, vous trouvez qu'il y a beaucoup de conviction là-dedans ? Évidemment, rejoignez-nous au poste, ce que je fais volontiers, dire, mais bien volontiers, je vais suivre cette aventure jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire une débâcle générale. Vous imaginez la police vraie du musée avec la police fausse du musée, plus le vrai faux vol du musée, plus le directeur du musée qui dit « Mais on ne peut pas enlever cette pièce », et il avoue, le malheureux, elle est déjà pré-vendue au musée d'Amsterdam, et elle ensuite elle va à Beaubourg. Alors, mais comment ? Mais vous avez volé des objets quoi ? Non, il a dit, c'est la pièce qui a été vendue, pas les objets. Mais lui, c'est le caleçon de la vieille dame. Il faut lui rendre. Mais non, elle ne l'a pas demandé. Ah, mais vous avez intimidé les gens. Enfin, vous voyez un peu l'affaire. Bref, il a prétendu par la suite avoir été malmené par la police, enfin, qu'il lui est arrivé les pires choses. Bref. Tout ça a duré. Nous, le lendemain, pour s'amuser un peu, on a écrit un communiqué signé d'un nom fantasque qui s'appelait Groupe Zoya Mouton Martyr. Pourquoi ? Parce que Zoya Mouton était une femme communiste totalement dégénérée de Marseille. On a trouvé une idée un peu drôle. Et on explique dedans que tout ça était assez rigolo. Et voilà que d'un coup, comme on avait envoyé ce message-là aux télévisions, les télévisions se précipitent là-bas dedans, dans le commissariat de police, trouvent l'artiste en question avec un bonnet de nuit sur la tête, et font des photos, et le directeur, etc. Et personne n'arrive à comprendre le pourquoi de la chose. Donc ils en déduisent que c'était des fascistes moralistes, peut-être même des Quakers, qui c'est, un type comme moi en tout cas, qui était venu, au nom de la morale, condamner l'art et toutes ses audaces. Évidemment, vous imaginez. Donc j'écris un texte, évidemment l'idée ne veut pas le publier, avec Jean, à ce moment-là, il faut dire qu'avec Jean, téléphonait beaucoup, et j'étais entre Paris et Marseille à l'époque, et je l'appelle, je lui raconte ça, une fois qu'on a fini d'en rire, ça arrive vraiment beaucoup, beaucoup. On reprend les données, lui il écrit un texte qui s'appelle Macintosh, qui est parfait, une drôlerie incroyable sur ce chose-là, et moi j'écris un truc qui s'appelle le Mac Misanu, c'est-à-dire évidemment la question de la machine célibataire du champion. Le Mac Misanu par C, vous allez vous compléter vous-même. Là-dessus, les choses s'embrouillent, et outre les articles de presse qui disent quelque chose que nous sommes des fascistes, que, vraiment bref, des choses complètement délirantes, évidemment, là-dedans, on s'amuse. Donc, Jean publie Le complot de l'art, qui est un texte, mais d'une férocité, dont j'ai lu un extrait tout à l'heure. Toi, Hubert, c'est à ce moment-là, tu commences à rassembler les papiers. Donc, vers la fin de 96, on est en pleine ébullition. Jean passe vraiment pour un réactionnaire absolu qui n'a rien compris à l'art et qui n'a vraiment pas compris toute la modernité qu'il y a dans l'art contemporain. Et on se rend compte que la partie a été jouée et que ce n'est pas la peine de revenir. Donc il écrira encore un texte par la suite, mais il n'est plus nécessaire. Il suffit de laisser le jeu. Moi, je me retrouve à publier 5-6 textes aussi, donc dans Interlope la Curieuse, dans Ligne, partout, mais juste pour replacer les choses. Avec l'idée, et je reviens là-dessus, cette question de la joie théorique, que la théorie, c'est de voir comment le réel là-dedans n'est pas à décortiquer. Le réel, c'est ce qu'il est advenu par la suite. Ce qui est advenu, si on va appeler ça le réel, ça n'a rien de réel. C'est simplement la prise. Dans le jeu théorique et dans le défi que la théorie pose à un certain nombre de personnes, de participants à la chose, eh ben, il s'agit donc d'amener une règle du jeu qui fait envie par-dessus le marché. Et ça n'a pas tapé. Peu à peu, effectivement, d'autres s'y sont remis. Alors, on a vu Yves Michaud aussi, après qu'il est intervenu, puis d'autres. Bon, bref, beaucoup. Mais le problème, c'est qu'ils sont revenus avec le sens critique, à savoir, on critique l'art contemporain parce qu'il devrait être ceci, qu'il n'est pas cela. La question n'était pas là. La question, c'est de savoir ce qu'il allait advenir une fois qu'on avait boosté, jusque dans ses dernières limites, les fragilités de son échafaudage. Alors, comme c'est l'heure, ben, et que je n'ai pas dit la moitié de ce que j'aurais pu vous dire de la chose, je vais vous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire d'esthétique et comment comment Jean envoyait peut-être une forme d'issue à la rotondité de l'art sur ses propres décombres, c'est-à-dire ce que nous avions pris, comment dire, comme cible. Donc, à savoir sur la fin de l'art comme représentation et comme esthétique. C'était surtout cela qui était en jeu, en tout cas pour Jean. La question de l'esthétique, il avait même fait un entretien qui s'appelait « Je n'ai pas la nostalgie de l'esthétique ». Et je crois que c'est quelque chose de fondamental à entendre. Il y a autre chose que l'esthétique en art. Et l'esthétique devient, au moment où l'art a cessé d'être cette espèce de présence du monde, l'esthétique était le moyen par lequel la présence du monde pouvait encore toucher. À partir du moment où le monde n'est déjà lui-même qu'une image et simulacre, une esthétique de tout ça ne peut être que ce qu'il appelle un simulacre de second ordre, ou en tout cas un simulacre inconditionnel, qui n'a plus de raison d'être autre que sa propre viralité, sa propre autogénération. Je vous lis pour finir, donc je m'arrêterai là-dessus, ce que dit Jean donc, à la fin de Illusion, désillusion esthétique, qui est un très beau texte publié dans Transeuropéenne, antérieur d'ailleurs à ces questions de querelle de l'art. En fait, il y a deux façons d'échapper au piège de la représentation. Celle de sa déconstruction interminable, où la peinture ne cesse de se regarder mourir dans les débris du miroir, quitte à bricoler ensuite avec les restes, toujours en contre-dépendance de la signification perdue, toujours en mal d'un reflet ou d'une histoire, ou bien sortir tout simplement de la représentation, oublier tout souci de lecture, d'interprétation, de déchiffrement, oublier la violence critique du sens et du contresens, pour rejoindre la matrice d'apparition des choses, celle où elles déclinent tout simplement leur présence, mais en des formes multiples, démultipliées selon le spectre des métamorphoses. Élégance délicate que de ne pas succomber au charme nostalgique de la peinture et de se maintenir sur cette ligne subtile qui tient moins de l'esthétique que du leurre, héritière d'une tradition rituelle qui ne s'est jamais vraiment mélangée à celle de la peinture, celle du trompe-l'œil. Dimension qui renoue, au-delà de l'illusion esthétique, avec une forme bien plus fondamentale d'illusion que j'appellerais ici anthropologique, pour désigner cette fonction générique qui est celle du monde et de son apparition, par où le monde nous apparaît bien avant d'avoir pris un sens, bien avant d'être interprété ou représenté, bien avant de devenir réel, ce qui n'est devenu que tardivement et sans doute de façon éphémère. Non pas l'illusion négative et superstitieuse d'un autre monde, mais l'illusion positive de ce monde-ci, de la scène opératique du monde, de l'opération symbolique du monde, de l'illusion vitale des apparences dont parle Nietzsche. L'illusion comme celle primitive, bien antérieure, plus fondamentale que la scène esthétique. Merci.
Bien, merci beaucoup. Comme on a pris un petit peu de retard, je vais immédiatement laisser la parole à Anselme Jappe.